vous ou quelqu'un que vous connaissez étudier une nouvelle langue? Le concours national des langues SBS 2018 est ouvert jusqu'au 18 novembre. Pour plus d'informations, rendez-vous sur sbs.com.au/nlc18.
Les grands titres de ce mardi, le restaurant Pellegrini rouvre ses portes ce mardi avec un hommage émouvant au copropriétaire Sisto Malaspina, tué vendredi dernier lors d'une attaque au couteau à Bourke Street à Melbourne. De nouvelles violences dans la bande de Gaza avec des tirs de projectiles vers le territoire israélien et puis plusieurs morts dans une attaque suicide à Kaboul en Afghanistan. Le café de Melbourne, Pellegrini's, dans la rue Bourke, a rouvert ses portes avec un hommage émouvant à Sisto Malaspina, qui a été tué vendredi dernier lors d'une attaque au couteau à Bourke Street à Melbourne. Le restaurateur, âgé de 74 ans, est mort dans la rue, assassiné. Sisto Malaspina était copropriétaire de Pellegrini depuis 1974 et lui-même et le lieu sont devenus des icônes de Melbourne. L'ABC a déclaré que le copropriétaire Nino Pangrazio avait rendu hommage à son collègue Monsieur Malaspina avant d'ouvrir les portes du restaurant au public ce matin.
Today is about giving customers and others the chance to come here and pay respect and to pay respects or relieve a memory or relive a memory that have been place that has been a place sister love, the place I love and the place our customers love.
Le copropriétaire de Pellegrini's à Melbourne, Nino Pangrazio. L'accord de libre-échange entre l'Australie et l'Indonésie devrait être signé avant Noël, mais un retard signifie qu'il est peu probable qu'il soit ratifié avant les prochaines élections fédérales. Tout accord signé doit passer au moins 5 semaines devant le Parlement fédéral, mais il est peu probable qu'il y ait suffisamment de semaines de séance avant les élections de l'année prochaine. L'Indonésie, irritée par l'annonce de l'Australie d'envisager de déplacer l'ambassade d'Australie en Israël de Tel Aviv à Jérusalem, à laquelle s'opposent les Palestiniens et le gouvernement indonésien. Le Premier ministre australien Scott Morrison avait précédemment déclaré qu'il souhaitait que l'accord soit signé avant Noël, mais lundi hier, il a déclaré qu'il n'y avait aucune hâte. Le Premier ministre Scott Morrison est intervenu pour augmenter le budget d'aide alimentaire afin de garantir qu'une organisation caritative qui nourrit 710 000 personnes par mois conserve son financement. L'organisation Food Bank envisageait de réduire les services destinés aux nécessiteux après avoir été informé d'une redistribution du budget de secours qui équivalait à une réduction des financements de plus de 250 000 dollars par an. Le Premier ministre Scott Morrison a annoncé hier qu'il avait décidé d'augmenter de 1,5 million de dollars le budget alloué par an sur les 4 prochaines années. On écoute la présidente de Food Bank, Brianna Casey, elle est sur ABC.
This is a massive relief for Food Bank. We had been extremely concerned by the announcement last week that our funding had been so substantially cut. We are very pleased that the Prime Minister has intervened this morning. This is a very sensible decision.
Brianna Casey, présidente de Food Bank. L'ancienne directrice de l'ABC, Michelle Guthrie, et le président du conseil d'administration, Justin Milne, ont dévoilé en coulisses le licenciement controversé de Madame Guthrie. Elle a été renvoyée de son poste de directeur général en septembre dernier. Justin Milne a ensuite été contraint de démissionner de ses fonctions de président du conseil d'administration quelques jours plus tard, accusé d'avoir tenté de limoger plusieurs journalistes pour apaiser le gouvernement. Et dans une interview avec le programme Four Corners de l'ABC hier soir, Madame Guthrie a affirmé que Justin Milne l'avait touchée de manière inappropriée, la frottant au dos alors qu'ils étaient à un dîner du conseil d'administration en novembre 2017. Justin Milne a rejeté cette accusation.
I've had no physical relationship with Michelle at all. I never, ever acted inappropriately with Michelle or indeed with any other woman in the workforce or any other woman at all.
Les Palestiniens à Gaza ont tiré des dizaines de roquettes sur le sud d'Israël. Et Israël a lancé des frappes aériennes un jour après l'incursion israélienne qui avait déclenché des combats dans l'enclave. Le Front de libération de la Palestine a signalé qu'au moins deux hommes armés palestiniens avaient été tués lors des frappes israéliennes. Reportage Guillaume Delteil pour Radio France Internationale.
Les groupes palestiniens ont lancé tout d'abord un barrage de roquettes dans l'après-midi, une centaine de tirs en l'espace de 40 minutes, une intensité telle que le bouclier antimissile israélien a été dépassé et plusieurs habitations ont été touchées. Les factions palestiniennes ont alors menacé d'intensifier leurs tirs si Israël restait sourd à ce qu'ils qualifiaient de mise en garde. En réponse, l'armée israélienne a mené une série de bombardements dans la bande de Gaza, une vingtaine de sites dans un premier temps, et son porte-parole a assuré que le Hamas ressentira la force de l'armée israélienne ce soir. Depuis, les tirs et les bombardements se poursuivent. Ce sont désormais plus de 300 roquettes, dit l'armée israélienne, qui ont été tirées depuis la bande de Gaza, forçant des milliers d'Israéliens à se réfugier dans les abris antimissiles. Un immeuble de la ville d'Ashkelon a été touché il y a quelques minutes. L'armée israélienne, elle, a bombardé plus de 70 sites, dont la télévision du Hamas dans la bande de Gaza. Le mouvement islamiste affirme aussi que des installations civiles ont été touchées. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a tenu des consultations avec les responsables sécuritaires dans la soirée. Un cabinet de sécurité, formation restreinte du Conseil des ministres, est également prévu demain, alors que la nuit s'annonce donc à nouveau très tendue.
Aux États-Unis, en Californie, les autorités ont confirmé la mort d'au moins 29 personnes dans la ville de Paradise et aux alentours, ce qui correspond au record de décès en Californie enregistré lors d'un seul incendie. Reportage Eric de Salve pour RFI.
Chaque jour, au milieu des cendres, les services du shérif retrouvent de nouveaux restes humains. Les habitants de Paradise ont été totalement surpris par les flammes. Beaucoup n'ont pas eu le temps d'évacuer et sont morts dans leur maison. D'autres sur la route, en tentant de fuir au milieu de ce gigantesque brasier décrit comme une tornade de feu par les survivants. Des dizaines de carcasses de voitures calcinées jonchent d'ailleurs la route vers cette petite ville qui comptait environ 30 000 habitants avant l'incendie et qui aujourd'hui est presque entièrement détruite. Paradise était habité par de nombreux retraités à bas revenus, souvent à faible mobilité. Parmi les survivants que nous avons rencontrés, tous expliquent s'être enfuis in extremis alors que le feu était déjà dans leur jardin. Ils ont été obligés de traverser les flammes en voiture sur plusieurs kilomètres avant de trouver refuge dans des villes voisines. De leur côté, les pompiers progressent. Le feu est contenu à 25% contre seulement 5% vendredi, mais le bilan humain devrait encore s'alourdir dans les heures qui viennent car selon la police à Paradise, plus de 200 personnes sont encore portées disparues.
Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a affirmé sur France 2, je cite, ne pas avoir eu connaissance des enregistrements du meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi au consulat d'Istanbul le 2 octobre dernier, contredisant des déclarations du président turc. Précision de Sami Boukhelifa pour RFI.
La France a-t-elle véritablement reçu des éléments dans l'affaire Jamal Khashoggi ? Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, semble en tout cas catégorique. Des enregistrements portant sur l'assassinat de Jamal Khashoggi ont été transmis à plusieurs pays occidentaux et parmi eux, la France. Mais ce lundi matin, sur le plateau de France 2, le ministre français des Affaires étrangères nie ces affirmations. Jean-Yves Le Drian.
Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, sur l'affaire Khashoggi, la vérité n'est pas au rendez-vous. Le compte n'y est pas.
Et pourtant, donc, le président turc dit, vous savez, la France sait.
Notre position, c'est la vérité, les circonstances, les coupables, et qu'ensuite, nous prendrons les sanctions nécessaires.
Le président turc dit, il connaissait la vérité. Il, c'est vous, enfin c'est la France, c'est nous, les États-Unis, les Britanniques qui ont eu accès à ces enregistrements.
Si le président turc a des informations à nous donner, il faut qu'il nous les donne.
Ça veut dire qu'il ne vous les a pas données ?
Pour l'instant, je n'ai pas connaissance.
Ça veut dire qu'il a menti ?
Ça veut dire qu'il a un jeu politique particulier dans cette circonstance.
Cette dernière phrase provoque la colère de la Turquie. Propos inacceptable, dit Ankara, qui critique Paris et pointe un problème de communication entre le renseignement français et le Quai d'Orsay. D'autant que d'autres pays, comme le Canada, affirment désormais avoir reçu et écouté ces enregistrements.
Au moins 6 morts dans une attaque suicide dans le centre de Kaboul en Afghanistan. L'attaque a eu lieu à un carrefour très fréquenté de la capitale. Reportage Sonia Ghezali pour RFI.
La détonation a été entendue dans tout le centre de Kaboul lorsque le kamikaze à pied a fait exploser sa charge. Les membres des services de sécurité postés à l'entrée d'une rue dans laquelle se trouvent plusieurs institutions gouvernementales, dont le ministère des Affaires étrangères, ont repéré l'homme qui se trouvait sur le trottoir d'en face. Il a déclenché sa ceinture d'explosifs avant d'atteindre le barrage de police. S'agissait-il de la cible qu'il voulait atteindre? Difficile à affirmer. Le carrefour qui relie le centre de Kaboul et les quartiers ouest de la capitale afghane est très fréquenté. Parmi les victimes figurent des policiers et des civils, indiquent les autorités afghanes qui ont ordonné dans la matinée le blocage de plusieurs routes reliant l'ouest au centre de la ville en raison de manifestations qui ont commencé dans la nuit. Des centaines d'Afghans appartenant à la communauté Hazara, la minorité chiite du pays, ont marché jusqu'au palais présidentiel à partir de minuit pour dénoncer l'incapacité du gouvernement à garantir leur sécurité. Des violences communautaires ont lieu depuis plus d'une semaine, ainsi que des combats entre talibans et forces gouvernementales dans deux provinces du centre de l'Afghanistan, dans des districts majoritairement habités par des Hazaras.
Amnesty International a retiré son prix le plus prestigieux des droits de l'homme à Aung San Suu Kyi. Amnesty International a accusé le dirigeant de la Birmanie de perpétuer des violations des droits de l'homme en ne parlant pas de la violence à l'encontre de la minorité musulmane Rohingya. Saluée à l'époque comme une championne de la lutte pour la démocratie, Aung San Suu Kyi a été privée d'une série de distinctions internationales. Amnesty International est la dernière en date retirant son prix ambassadeur de la conscience de 2019. On écoute la directrice britannique d'Amnesty International, Kate Allen, sur Sky News.
We have been so shocked by the way that she has talked about this particular situation. She has described the Rohingya as lying. She said they burnt their own homes down. She's talked about fake rape. It has been one of the most disappointing experiences to see somebody who we had such faith in behave in this way.
La directrice britannique d'Amnesty International, Kate Allen, sur Sky News. Décès de la légende de la bande dessinée américaine Stan Lee à l'âge de 95 ans, il a créé avec des dessinateurs des super-héros, les quatre fantastiques, Hulk, Thor, les X-Men, les Avengers, Iron Man, Daredevil et bien sûr Spider-Man. Et puis le metteur en scène et auteur franco-libanais Nabil El Hazan est décédé hier à Avignon des suites d'un cancer. Il est né à Beyrouth en 1948 et s'est installé en France depuis 1978. Retour sur sa carrière avec Muriel Mahalouf pour RFI.
Il avait un pied en France et l'autre au Liban et au Moyen-Orient. Parmi ses projets phares, il traduit en arabe et monte la pièce de la dramaturge québécoise Carole Fréchette, Le collier d'Hélène, où il réunit des acteurs syriens, libanais et palestiniens. Nous sommes en 2002. C'est encore possible d'effectuer une tournée dans cette région. La pièce se joue à Damas, Beyrouth et Jérusalem au Théâtre National Palestinien. L'histoire d'Hélène, jeune femme en errance à la recherche de son collier, devient une métaphore de la terre perdu. C'est le premier projet qui lie la compagnie La Baraka et le Théâtre National Palestinien. Il sera suivi d'un atelier d'écriture, puis d'une pièce jeune public. En France, Nabil El Hazan s'intéresse aux écritures contemporaines. Il monte les pièces de Daniel Danis, autre Québécois, magicien du verbe, mais aussi celles du Norvégien Jon Foss, d'Enzo Corman ou de Coltès. Parmi ses dernières réalisations, il orchestre en 2015 pour les 60 ans du mythique Festival de Baalbek, un spectacle hommage où il réunit à l'ombre des ruines romaines les plus grands noms de la scène artistique libanaise, dont Ibrahim Mahalouf ou le poète Adonis.
Un mot de sport, le commentateur de football de SBS et ancien capitaine des Socceroos, Craig Foster, s'est positionné comme le choix populiste pour présider la Football Federation of Australia lors d'un forum de candidats potentiels à Melbourne. L'Assemblée générale qui élira un nouveau président pour le sport le plus pratiqué en Australie aura lieu dans une semaine. Hier, 7 candidats ont assisté à un débat pour discuter de leurs compétences pour rejoindre le conseil d'administration de la FFA. Coup d'œil météo pour ce mardi en Australie. Perth maximale de 25 degrés, Adélaïde 27, Melbourne 28, Hobart 28 également, Canberra 31, Sydney 25, Brisbane 27, Cairns 31, Darwin 34 et à Alice Springs maximale de 36 degrés. Un rappel des grands titres de ce mardi, le restaurant Pellegrini's rouvre ses portes ce mardi avec un hommage émouvant au copropriétaire Sisto Malaspina, tué vendredi dernier lors d'une attaque au couteau à Bourke Street à Melbourne. Et puis de nouvelles violences dans la bande de Gaza avec des tirs de projectiles vers le territoire israélien. Fin du journal, restez avec nous pour le reste de l'émission.
En français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Êtes-vous inscrit au concours national des langues SBS 2018? Le concours est ouvert à toute personne apprenant une nouvelle langue jusqu'au 18 novembre. Pour plus d'informations, visitez sbs.com.au/nlc18.